Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, mesdames, messieurs, je suis ravi de vous retrouver au début de cette nouvelle période de cours. Vous savez, vous l'avez constaté, que j'avais annoncé un cours en deux parties. La première s'intéresserait aux métamorphoses du Panthéon avestique. Je consacrerai cette partie à faire une introduction qui vous expliquera pourquoi j'envisage ce problème et de quelle manière je le ferai. La seconde partie est intitulée, je pense, « Controverse actuelle sur la composition des gattas » parce que c'est un problème d'actualité. Et c'est un problème d'actualité dont je ne puis pas faire abstraction. Je dois en parler cette année pour une raison très pratique. Je ne le ferai pas très longuement, mais il est nécessaire que je vous donne une introduction théorique à ce problème, parce qu'au mois de mai, nous recevrons, à titre de conférencier, l'un des protagonistes les plus actifs dans cette controverse, qui est le professeur Martin Schwartz de Berkeley. Il viendra nous entretenir de cette théorie extrêmement complexe, extrêmement compliquée, trop peut-être, ça nous verrons, sur la composition des gattas. Mais donc, il serait bon que je consacre maximum deux, minimum une leçon à introduire à ce problème. Donc, ce qui va nous retenir d'une manière plus longue durant cette année, c'est la partie que j'ai intitulée « Métamorphose du Panthéon avestique ». Je voudrais pour cela d'abord me livrer à une petite introduction qui, à certains égards, n'est pas neuve, mais qui aussi viserait à recentrer certains des problèmes qui nous ont retenus jusqu'ici. Je sais qu'il n'est pas, heureusement, j'en suis ravi, encore temps pour moi de faire une leçon terminale, bien sûr, mais peut-être que le moment serait venu, peut-être parce que le problème que nous allons aborder cette année et la manière dont nous le ferons exige peut-être que nous ayons une idée de la structure hasardeuse, ce n'était pas un projet, c'est le hasard des préoccupations scientifiques, des questions qui viennent à l'ordre du jour, etc. N'est-ce pas le cursus, au fond, des cours que je donne ici depuis un certain nombre d'années. Après avoir, au début de mon enseignement, envisagé le problème qui était nouveau pour moi de l'eschatologie mazdéenne, vous savez que j'ai été très longtemps un membre typique de l'école d'Erlangen, c'est-à-dire de cette école qui avait une vision extrêmement faible de l'eschatologie dans les textes mazdéens. À une certaine époque, cela était une nouveauté. C'est pas c'était une nouveauté de l'école d'Erlangen. Grands représentants de l'école d'Erlangen qui ont approché les textes vieil avestiques, les Gattas Eliasna Abtankaiti, à savoir Helmut Humbart et Johann Arten, s'étaient fait une vision extrêmement faible de l'eschatologie. C'est-à-dire, lorsque Bartholomé avait donné une interprétation des Gattas qui était fondée sur l'eschatologie, c'est-à-dire faisait des Gattas un texte dont la préoccupation centrale était le destin de l'âme des individus après la mort, et aussi le destin du monde après un certain nombre de siècles. Une eschatologie donc individuelle, une eschatologie collective, c'est la clé de l'interprétation traditionnelle de l'Avesta ancien par Bartholomé. Les travaux de Humbart, à partir de la moitié du XXe siècle, ils ne sont pas neufs, puis les travaux beaucoup plus récents de Narten, ils remontent aux années 1980, n'est-ce pas, avaient revu à la baisse la donnée eschatologique. C'est une vision que j'ai partagée très longtemps avec eux. Mais en travaillant sur les textes vieil avestiques, moi aussi dans le courant des années 1980, en collaboration avec Éric Pirard, j'ai été amené, lentement, à changer d'avis et à faire de l'eschatologie une donnée extrêmement importante des textes vieil avestiques, donc du mazdéisme ancien. C'était une position qui, malheureusement, s'est forgée tout au long de notre collaboration, de nos travaux communs, et qui n'a pas trouvé d'expression dans les textes vieil avestiques eux-mêmes. N'est-ce pas ? J'ai acquis cette conviction que l'eschatologie était effectivement une des clés, pas à la manière de Bartholomé, ça on peut en reparler, d'une manière un peu différente. J'ai acquis cette conviction en cours de travail. elle n'est donc pas, elle ne se reflète donc pas dans le livre. Alors j'avais consacré le premier de mes cours dans ces murs à cette conversion à l'eschatologie mazdéenne. Et ensuite, j'avais envisagé une série de deux cours. C'était entre les années 95 et les années 97, que j'avais intitulé avec une certaine provocation. C'est ce qui me motivait, n'est-ce pas ? Est-ce que les Mazdéens ont possédé un texte sacré ? C'est une question qui paraît vaine, puisque nous possédons un livre qui s'appelle l'Avesta. Mais que représente exactement l'Avesta comme corpus de texte ? Peut-on comparer l'Avesta au corpus biblique ? Peut-on comparer l'Avesta au Coran, par exemple ? Enfin, à ce que l'on appelle de manière convenue les livres sacrés des grandes religions. C'était mon but. Mais en travaillant sur ce thème, certaines choses me sont apparues beaucoup plus techniques, qui m'ont fait dévier de cette représentation d'ordre général. Donc cela m'a occupé un certain temps, puis je me suis livré avec vous, certains s'en souviennent peut-être encore, à envisager de grands problèmes d'actualité. À la fin des années 90, c'était une époque où l'on revisait, plusieurs savants ont revisé, ont revisité de manière très précise le texte des Yasht, c'est-à-dire des hymnes sacrificiels aux divinités, autre que le grand dieu Ahuramazda, ou divinité mineure, si vous voulez, quoique certaines ne soient pas si mineures que ça. C'est ce qui a caractérisé la fin du XXe siècle. C'était ces grands travaux sur les Yasht qui ont été menés par Panaïno, Pirard, Hinz, etc. Et nous avons fait un examen critique de leurs travaux. Ensuite, début des années 2000, j'ai dû envisager aussi une série de problèmes d'actualité. Vous savez qu'en 2004 est paru le livre de Pirard sur le grand éloge du Hauma, le Holmstone qui occupe le début du Yasna. Un peu plus tard encore, la même année 2004, mais j'en disposais dès lors en manuscrit, quoique l'article ne soit paru que tout récemment. C'était l'époque aussi où Xavier Tremblay élaborer la théorie du moyen avestique. Vous savez que traditionnellement, on se représente l'avestique comme une langue qui, en gros, est composée de deux strates, une part ancienne que nous appelons vieille avestique et une part plus récente que nous appelons avestique récent. Bon, Tremblay avait décelé à l'intérieur du Yasna certains textes qui semblaient avoir des caractéristiques moyennes. Et il introduit au congrès iranologique de Ravenne la notion de vieille avestique. Cela nous a retenu aussi 2 ans, n'est-ce pas ? Ce sont les 2 dernières années. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Voici où je veux en venir. C'est que ces nouveaux développements, ces développements de l'actualité scientifique dans les travaux sur l'Avesta, m'amène à renouer avec la problématique des années 95-97. C'est-à-dire, à savoir, ces travaux nous obligent à nous poser la question de la composition des textes de l'Avesta, à nous poser la question à nouveau de la nature du corpus des textes avestiques. L'Avesta est un livre, sans doute, il suffit de voir l'édition de Gieltner, c'est un gros livre, très beau, hein, mais qu'est-ce que c'est ? Quel est son contenu ? Comment devons-nous constituer, comment devons-nous nous représenter la constitution, la fonction, les choix qui ont dicté la composition de ce livre ? Alors, je vous invite aujourd'hui, à titre d'introduction, afin que vous voyez clairement les enjeux, que vous voyez aussi dans quelles conditions historiques nous réfléchissons à ces problèmes, hein, et ça vous rappellera quelques généralités, comment l'érudition contemporaine, l'érudition scientifique, s'est donné une représentation, au fond, de l'histoire de l'Avesta. Comment ce livre s'est-il constitué ? Comment est-il né ? Eh bien, dans le courant des années 1880, nous devons partir de là. N'est-ce pas ? L'ingénieur des chemins de fer anglais Edmund West commence à publier dans la collection des Sacred Books of the East, publiées en Angleterre, les premières traductions des livres de commentaires masdéens en moyen perse. Donc, en principe, moyen perse, ça représente l'époque de l'Empire sassanide. En gros, 226-651 de notre ère. En réalité, ils sont un peu plus anciens. Ils sont un peu plus récents, excusez-moi, je voulais dire le contraire. Ils sont un peu plus récents parce que si même ces livres étaient rédigés à l'époque sassanide, leur ultime rédaction remonte au IXe siècle. Au IXe siècle, ce sont donc leur ultime version et donc largement post-moyen perse. C'est déjà l'époque, au point de vue linguistique, du persan moderne. Le travail de West, c'est un travail de pionnier. Nous n'avons aperçu de la tradition masdéenne des livres dits Pelvi qu'à partir des travaux de West. C'est lui qui les a déchiffrés, de manière avec Martin Haug, certainement, mais qui, à l'époque où les livres commencent à paraître, est mort. Ceux d'entre vous que cette problématique du témoignage des livres moyens perses sur la constitution de l'Avesta pourront commodément trouver les passages les plus significatifs dans une traduction moderne, dans l'introduction à la nouvelle traduction des Gathas de Helmut Humbach de 91, pages 50 à 55. Donc c'est un mode d'accès commode pour ceux d'entre vous qui le souhaiteraient. Que nous disent les textes moyens perses, le Denkart en particulier? Eh bien, un certain nombre de points sur l'histoire de l'Avesta. Les textes, après la mort de Zarathoustra, nous dit-il, les textes qu'il avait rédigés ont été rassemblés et mis par écrit à la demande du roi Vishtaspa. C'est l'un des personnages les plus importants de la cour de Vishtaspa qui apparaît dans les Gathas, Jamaspa, qui se serait chargé de cette entreprise. Car la légende attribue à ce personnage, Jamaspa, une figure, une personnalité de savant. C'est un grand médecin, c'est aussi quelqu'un, c'est un lettré, quelqu'un qui sait écrire. C'est lui qui se serait donc appliqué à cette mise par écrit. Ce texte, ce livre, est détruit par Alexandre. Lorsque Alexandre est ressenti à l'époque moyen perse comme le grand cataclysme de l'histoire iranienne. La conquête par Alexandre, la destruction, l'incendie de Persépolis, signifie la destruction totale de l'Avesta. Dès lors, que reste-t-il des textes avestiques? Ce qu'en retiennent les prêtres, par voie orale. Ces textes dispersés, qui ne survivent que dans la mémoire d'individus, certainement en possession d'une fonction liturgique, donc dont c'est une part de la profession de retenir les textes et de les apprendre par cœur, auraient été collectés, rassemblés, à partir d'un roi Valakch. C'est dans ce nom, sous ce nom de Valakch, nous identifions un roi arsacide du nom de Vologèse. Problème pour nous, si nous voulons confronter cette information à la réalité, c'est qu'il y a plusieurs rois Vologèses. Le premier commence à régner en 54 de notre ère. Le dernier disparaît en 191. Donc voilà, nous avons la fourchette chronologique, nous ne savons pas lequel choisir, puisque les textes ne le précisent pas. Cette entreprise de collecte se poursuit sous les rois sassanides, donc à partir de 226, avec le roi Ardashir qui fait mettre par écrit les textes collectés. Et puis les choses deviennent un peu curieuses dans le rapport du Denkart. Shabour Ier, règne de 241 à 271, aurait fait réintégrer à l'Avesta des textes scientifiques qui avaient certes été détruits avec l'ancien canon, mais que les Grecs avaient adaptés, que les Grecs avaient conservés pour eux-mêmes, avaient traduits en grec. Ces textes sont rapatriés, en quelque sorte, réintégrés à l'Avesta et retraduits du grec en avestique. C'est ce que nous disons tout de suite que cette opération est entièrement utopique. Hein. C'est une chose impossible, n'est-ce pas? Je ne vois pas du tout tous ceux d'entre vous qui ont fait directement de la vestique peuvent se poser réellement, savent qu'il est totalement impossible de traduire un texte grec en avestique. Hein, c'est une entreprise tout à fait invraisemblable. Pas. Ensuite, autre chose, nous ne possédons aucun texte scientifique en langue avestique. Aucun. Hein, strictement aucun. Donc, cette information est dès l'abord tout de suite marquée par du saut de l'invraisemblance. Alors, l'information redevient à nouveau bizarre, mais parce qu'elle est floue cette fois-ci. C'est ce qui est autre chose. Sous le roi Shabour II, qui règne isolamment longtemps, de 309 à 319, le texte est revu. Il faut-il entendre par là. Il est revu par un haut dignitaire du clergé qui s'appelle Adourbad. Et la revision de cet homme a pour but d'établir de manière indiscutable l'autorité, l'orthodoxie parfaite des textes qui ont été collectés. Et il aurait testé la valeur de cette orthodoxie en s'infligeant l'ordalie par le feu, c'est-à-dire en se versant sur la poitrine du métal fondu. Il aurait été épargné par les brûlures. L'orthodoxie de l'Avesta sous Shabour II était ainsi établie. Nouvelle revision. Pourquoi ? Sous le roi Khosrow Ier. À nouveau, un règne assez long. Vous voyez que la tendance de ces informations et qui se reproduit d'ailleurs dans l'interprétation scientifique qui en sera donnée, est d'attribuer les entreprises philologiques d'édition de l'Avesta, en quelque sorte, aux règles les plus longs. L'idée sous-jacente est évidemment qu'on a besoin d'époques de prospérité, exemptes de troubles, hein, période d'apogée politique, quelque sorte, pour se livrer à ce type de travail intellectuel. Khosrow règne effectivement de 531 à 579. Ce témoignage du Descartes est accepté dans toute sa, dans son ensemble par le grand éditeur de l'Avesta, par Carl Friedrich Geltner, cet homme qui, depuis 12 ans, plus de 12 ans, se débattait avec 150 manuscrits avestiques afin de faire une édition du texte et qu'il a fait de manière absolument admirable. C'est un véritable chef-d'œuvre philologique. Exprime dans son Avesta Literatur, c'est la part qui est consacrée à la littérature avestique dans le Grundriss der iranischen Philologie, paru en 1896. Geltner était le mieux placé pour cela, fait un tableau de la littérature avestique, et il ne montre aucun scepticisme envers le récit du Descartes. Il ne le fait pas, pourtant il l'avait déjà à cette époque, il aurait eu peut-être des raisons de le faire. Le témoignage du Descartes ne contient aucune invraisemblance criante, aucune invraisemblance réellement apparente, n'est-ce pas ? C'est ce que fait remarquer Geltner. Il dit simplement, il n'embellisse rien, dit-il. Il ne cache rien. L'Avesta a été détruit, on nous le dit. On ne nous présente pas ce texte comme un très vieux livre. Au contraire, il avait disparu. C'est une recréation. Pour Geltner, ce type d'aveu est un gage d'authenticité. Pourtant, voyons bien que nous pouvons élever quelques objections de principe, qui ne portent pas naturellement sur des faits précis. Que l'on ait pu mettre l'Avesta par écrit avant notre ère, à la fin de l'époque, ce que nous devons considérer, puisque la destruction aurait été le fait d'Alexandre, comme l'époque achéménide, est une invraisemblance pratique. D'abord parce qu'il est impossible. Le monde iranien ne dispose d'aucune réelle cursive, d'aucune réelle écriture cursive. On possède sans doute des écritures de type monumental, hein, les inscriptions achéménites, mais cela graffe le roc. Hein, c'est du cunéiforme, cela graffe le roc. On peut sans doute, on voit mal quel type d'écriture aurait pu servir à rédiger un livre d'ampleur. C'est une inconsistance pratique. Mais enfin, nous pouvons tout de même, certains savants le font, peut-être que Geltner l'a fait, il n'en a rien dit, on peut songer à un phénomène chez non manquant. Les Iraniens de l'époque achéménide auraient pu utiliser une écriture dont nous n'avons aucun témoignage, sur laquelle, dont rien ne témoigne. Ça pourrait par exemple à la limite, hein, mais je donne le cas limite, je ne le pense pas, c'est un cas limite, mais on peut l'envisager intellectuellement. Le monde achéménite est voisin du monde grec. Pourquoi ne pas adopter l'écriture grecque, qui est un remarquable support pour rédiger un livre, n'est-ce pas ? Rien n'indique, bien sûr, que le monde iranien ait utilisé l'écriture grecque. Mais si nous partons de l'idée que le chaînon manque, peut-être. Enfin, il y a une contradiction, c'est l'autre chose, entre l'état des connaissances, plutôt l'état des opinions, à l'époque où Geltner, à la fin du XIXe siècle, rédige son Avesta Literatur, et les données de l'Avesta Sassanide, sur la période ancienne à nouveau, n'est-ce pas, les périodes qui remontent donc, tournent autour d'Alexandre, avant la recollection des textes par les rois arsacides. C'est que à cette époque, à la fin 96, quand écrit Geltner, depuis déjà plus de 15 ans, la plupart des spécialistes, à l'exception de l'auteur du dictionnaire, Christian Bartholomé, la plupart des spécialistes de l'Avesta ont modifié leur conception de la datation des textes. Pour eux, les textes avestiques, dans la représentation que s'en fait Friedrich Spiegel, par exemple, qui est un très vieil éditeur de l'Avesta, qui travaille sur la question depuis les années 1850, aussi le spécialiste louvaniste de Harley, Justi, l'allemand Justi. Geltner lui-même, qui vient justement de changer d'avis à cet égard, dans le Grundriss, date l'époque de composition de l'Avesta ancien, conçue comme l'œuvre de Zarathoustra, hein, la datation des textes avestiques les plus anciens, c'est la datation de Zarathoustra dans leur tête, donne à ces textes une datation qui est soit moyenne, je veux dire par moyenne oscillant entre le 8e et le 4e siècle, soit, pour la plupart d'entre eux, basse. C'est-à-dire postérieure au règne de Darius, selon les mots de Harley. C'est la conception aussi de Spiegel. La datation de Geltner est un peu différente. Il faudrait remonter une dizaine d'années avant Darius. Mais de toute façon, vous voyez, le temps manque un peu pour imaginer, n'est-ce pas, pour imaginer que l'on ait pu mettre un livre d'ampleur par écrit. D'abord, la composition des textes, bien sûr, composition des textes. Dater Zarathoustra, c'est dater les plus anciens textes de l'Avesta. Or, une grande partie de l'Avesta est de toute évidence plus récente. Si un texte qui aurait pu être détruit par Alexandre a existé, à quoi ressemblait-il? Que comportait-il? Quels étaient les textes rédigés déjà à cette époque? Cela nous échappe entièrement. Cela n'est pas envisageable. Un corpus avestique est difficilement envisageable dans le cadre d'une datation moyenne ou basse. Dans le cadre d'une datation haute, moi je dois me poser la question, puisque je suis partisan d'une datation haute, comme la plupart des spécialistes aujourd'hui, c'est une autre question. Hein. Là, nous pourrions admettre éventuellement qu'un Avesta écrit a existé en Perse, c'est-à-dire aux limites occidentales du monde iranien, à l'époque achéménide, ce que je crois. Je crois qu'il n'avait pas une forme écrite, mais je crois que le monde achéménide disposait des textes avestiques par la voie de la transmission orale. Bon, nous pouvons voir les choses comme ça. La plupart des textes avestiques, la plupart. La contradiction, effectivement, est encore plus importante quand on songe que Geltner pense que l'on a composé des textes avestiques pendant très longtemps. Et très longtemps, même la rédaction des textes avestiques, dit Geltner dans le Grundriss, a dû s'arrêter à l'époque de Shapur II, au IVe siècle de notre ère. C'est très tard. Et Geltner lui-même entretient quelques doutes, car West lui avait écrit, il avait consulté à ce sujet, il avait effectivement soufflé un argument, un contre-argument extrêmement puissant, hein, extrêmement puissant, en disant si le clergé d'époque sassanite, au IVe siècle de notre ère, était encore capable de rédiger des textes avestiques, pourquoi devait-il les commenter en moyen perse? Si l'avestique était suffisamment connu pour qu'on, non seulement qu'on le comprenne, mais qu'on l'écrive, ben, un commentaire dans la langue du temps était totalement inutile, puisque ces commentaires ne s'adressent naturellement qu'aux prêtres. Ce serait adressé à des prêtres qui rédigeaient encore en avestique. Geltner a trouvé l'argument très fort, mais il a malgré tout émis l'hypothèse ces textes avaient... Alors, bon, ces textes-là, évidemment, bien sûr, c'est une contradiction. Ils ne pouvaient pas faire partie de l'Avesta détruit par Alexandre. J'ajouterai un troisième argument. Troisième argument contre le témoignage qui nous oblige à relativiser le témoignage moyen perse. C'est tout de même cette suite incessante à une époque où le pouvoir politique n'est pas chancelant. Le pouvoir politique est continu à l'époque sassanide. Pourquoi faut-il en permanence revoir le texte? Bon, admettons, Chabour Ier réintègre des textes, une opération invraisemblable. Chabour II le fait revoir. Khosrow Ier le fait revoir. Pourquoi toutes ces révisions à une époque où il n'y a aucune raison, au contraire, n'est-ce pas, le clergé est bien institutionnalisé, et il est très présent à la cour des rois, il est protégé par les rois sassanides, c'est devenu un pouvoir, c'est devenu une religion d'État, probablement, pourrait peser les termes, d'autres que moi pourraient mieux en parler, mais on ne voit pas ce qui pourrait compromettre l'authenticité des textes durant la période sassanide. La récurrence extraordinaire des révisions est quelque chose de suspect. Bon, cela, c'est le témoignage traditionnel des textes moyens perses. Une date, le paysage de la réflexion sur l'histoire de l'Avesta sera profondément modifié en 1902, lorsque le professeur de Göttingen, Friedrich Karl Andreas, au congrès de Hambourg, émet l'idée que l'Avesta que nous possédons, celui que Geltner a édité, à cette époque on le possède depuis environ 7 ou 8 ans, l'édition de Geltner est disponible depuis 7 ou 8 ans. Cet Avesta-là, pour Andreas, est une entreprise très tardive. En réalité, explique Andreas, l'Avesta a été rédigée sous les rois arsacides. Il ne renvoie pas à Valach. Très difficile d'utiliser Andreas, parce qu'il a très peu écrit, surtout sur cette question. Nous avons simplement le résumé de sa communication au congrès de Hambourg, où il a émis cette idée. Le résumé de sa communication. Les rois arsacides ont fait mettre les textes avestiques qui étaient encore connus par écrit. Mais ils ont été mis par écrit dans une écriture consonantique de type araméen, de forme araméenne, inspirée de l'araméen. Donc, une écriture où les voyelles n'étaient pas transcrites. Et ce n'est que très tard, probablement après la chute de l'Empire sassanide, qu'afin de prévenir une impossibilité de lecture et d'élocution liturgique des textes, que l'on a refondu ces textes dans une écriture phonétique à la grecque, notant les consonnes. Mais puisque cette entreprise était une entreprise visant à parer à une menace, nous devons considérer que la connaissance de la langue authentique par ceux qui ont procédé à cette opération était déjà singulièrement compromise. Dans l'esprit d'Andreas, donc, ces gens se sont fréquemment trompés. D'où, nous dit-il, nous ne pouvons pas pratiquer, comme Geltner l'a fait pour faire une édition, certes elle est utile parce que nous disposons des textes, Nous ne pouvons pas pratiquer comme Bartholomée est en train de le faire, et Bartholomée vient d'ailleurs d'exposer aux yeux, à ce moment-là, au même congrès, les épreuves de son dictionnaire qui paraîtra en 1904, son dictionnaire avestique de 1904. Nous ne pouvons pas procéder à cela de manière totalement directe. Nous devons nous travailler de manière critique, nous dit Andreas. Nous devons nous poser la question suivante. Comment la forme que nous avons, dans les manuscrits édités par Geltner, quel visage avait cette forme si elle était notée sans ses voyelles? Et alors, vous voyez, cela invite évidemment une pratique philologique qui consiste à dévocaliser le texte, puis à le revocaliser peut-être autrement, en faisant l'hypothèse qu'il y a eu erreur. Maintenant, je voudrais, sur cette hypothèse d'Andreas, faire deux réflexions. Il faut bien se rendre, j'ai déjà exposé souvent cette importance, l'importance qu'a eu l'hypothèse d'Andreas, mais je voudrais insister sur deux choses. D'abord, une chose que l'on ne sait pas, c'est la faute de Karl Hoffmann, parce qu'une chose que l'on ne s'est pas bien rendu compte, c'est que cette idée que le premier Avesta écrit était araméomorphe, c'est-à-dire mis par écrit dans une écriture consonantique à l'araméenne, n'est pas du tout une idée propre à Andreas. Andreas n'a pas commis au congrès de Hambourg l'acte démoniaque que Hoffmann lui a toujours attribué. Beaucoup de gens pensaient cela, beaucoup d'autres. Spiegel l'a exprimé dans le journal des orientalistes allemands de 1882. Il a dit, la première version de l'Avesta était écrite dans un alphabet de type araméen. Bartholomée, dans le Grundriss, 96 également. Bartholomée lui-même, l'auteur du dictionnaire, nous le dit. Il nous dit, beaucoup de problèmes linguistiques, écrit-il dans le Grundriss, pages 153-154, proviennent du fait que les formes de nos manuscrits sont des formes qui ont été refaites à partir d'une écriture moins perfectionnée, moins précise, une écriture consonantique. Geltner lui est incompréhensible, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas comment je dois le comprendre. Je vous donne ce qu'il écrit dans le Grundriss en 23. Je ne sais pas ce que cela implique. Exercez votre sagacité. La mienne est, je vous avoue, taculée. La difficulté, dit-il, provient du fait que le texte nous est parvenu, je le dis en allemand, in neuredigierter, überarbeiteter Gestalt. C'est une forme procède d'une nouvelle rédaction et d'un travail. Le texte a été remodelé. Que veut-il dire par là? Je ne sais pas exactement. Donc, la version d'Andreas, c'est une idée qui était totalement, qui était courante à cette époque, depuis plus de 20 ans. La seule originalité d'Andreas, c'est de faire l'hypothèse que la vocalisation du texte a été défectueuse. Donc, que il est légitime de modifier sa vocalisation. Une autre chose, on l'a nié, c'est pour cela que je veux insister aussi, c'est que le succès de la théorie d'Andreas a été long et massif. Tout le monde a été convaincu pendant longtemps. Alors, lorsque récemment, Chahut Chaquette, dans les Mélanges Newly, m'a reproché de considérer les choses comme ça, parce que beaucoup de personnes aurait, paraît-il, résisté à la théorie d'Andreas, est une vue erronée des choses. Je lui fais remarquer par écrit, jusqu'aux tentatives de réfutation de la théorie d'Andreas qui surviendront durant la Seconde Guerre mondiale, en toute connaissance de cause, je ne connais qu'un adversaire de la théorie d'Andreas, et encore, se situe-t-il bien près des premières tentatives de réfutation. C'est Nuberg, dans son livre « Die Reniglonen des alten Iran » de 1938. Oui, nous sommes déjà en 1938, et où effectivement Nuberg insiste sur l'importance particulière de la tradition orale contre une tradition écrite parallèle. À mes connaissances, durant toute cette période qui va de 1902 à la Seconde Guerre, Nuber qui est le seul qui ait émis un certain scepticisme, qui ait produit un certain scepticisme vis-à-vis de la théorie d'Andreas. Mais vous voyez bien aussi que la théorie d'Andreas a surtout un grand effet, un autre effet. Non seulement, bien sûr, c'est une théorie qui induit à une pratique philologique d'un type particulier et effectivement nocif. Il faut l'admettre, n'est-ce pas ? En cela, Hoffmann a raison. C'est démoniaque, comme il disait. C'est vrai, c'est nocif. Mais cette théorie émancipe la réflexion scientifique du témoignage du Descartes. Nous n'avons plus besoin du témoignage du Descartes. Nous possédons un schéma explicatif qui n'est pas contradictoire avec celui du Descartes, qui non plus ne procède pas à l'authentification de tous les détails que donne le Descartes, mais qui est compatible avec sa ligne générale, avec ce qu'on peut en retenir. Mais nous n'avons plus besoin de ce témoignage précis. Les rois acides ont effectivement fait collecter les textes encore connus par les prêtres et les ont fait mettre par écrit dans une écriture de forme araméenne. Bien. Après l'Empire sassanide, probablement très vite, n'est-ce pas, et les menaces, la précarité des écoles liturgiques chargées de la transmission orale, induit à une tentative de préservation de la forme réelle des textes tels qu'on devait les conserver pour la récitation liturgique, et le texte a été retranscrit sous forme vocalisée. Bon. Donc, nous avons une théorie scientifique, abstraite, parallèle à celle du Descartes, qui ne contredit pas le Descartes, qui ne le confirme pas non plus. Nous sommes dispensés de recourir à ce que nous donne la tradition indigène. La réfutation de la théorie d'Andreas. La réfutation de la théorie d'Andreas, comme vous le savez, je l'ai aussi souvent exposé ici, mais je voudrais insister sur un détail. Elle est faite simultanément par trois savants considérables, mais qui vont s'ignorer, pour des raisons très claires, puisque leurs contributions respectives paraissent 42, 43, 44. Le temps n'est certainement pas aux échanges scientifiques détendus et libres. Aussi, ces entreprises sont indépendantes les unes des autres. La première est celle du Norvégien Morgenstern, 42. Morgenstern n'est pas un avestologue, c'est un très grand spécialiste, personnage considérable, très grand savant, mais spécialiste de la dialectologie iranienne orientale, moderne. C'est le grand découvreur des dialectes de l'Afghanistan. Le second est un iraniste beaucoup plus généraliste, c'est Harold Walter Bailey. Et Bailey a cette caractéristique qu'il est peut-être l'un des rares iranistes de cette époque qui ait continué la tradition des études moyen perses, des textes pelvis. Pendant toute une époque, l'étude des textes pelvis, donc du moyen perse des livres, des commentaires de l'Avesta, est tombée dans une certaine désuétude. Le seul qui l'ait prolongé d'une manière systématique a peut-être été justement Bailey. Donc Bailey va avoir recours à d'autres types d'arguments. Nous allons le laisser provisoirement de côté, puis nous reviendrons à lui. La réfutation décisive, parce que le personnage est considérable, provient de Walter Bruno Hennig dans le Journal of the Philological Society de 1942, mais qui paraît en réalité en 1944. Or, les tentatives... Hennig n'est pas non plus un avestologue, fondamentalement. C'est un spécialiste, très grand spécialiste du moyen iranien. Donc nous avons deux spécialistes extrêmement admirables et deux personnalités hors normes, n'est-ce pas, de l'iranologie qui tentent une réfutation d'Andreas en mettant à contribution la connaissance profonde qu'ils ont de leur domaine particulier. La dialectologie iranienne moderne, dans le cas de Morgenstern, les parlées moyennes iraniennes en celle de Hennig. Alors, leur réfutation d'Andreas est basée sur le même argument. Ils tentent de montrer, l'un et l'autre, que la graphie avestique, la graphie que nous trouvons dans les manuscrits que nous possédons, donc dans l'édition de Geltner, traduit fidèlement les caractéristiques phonétiques de la langue originale. C'est une graphie à laquelle nous pouvons nous fier, selon Morgenstern et Hennig. Lorsque parfois certaines choses nous paraissent bizarres, et on dit, nous dira Morgenstern, vous voyez, nous trouvons cette réaction, cette évolution, ce développement phonétique particulier qui n'est pas étymologique en pachto, dans les dialectes modernes, dans ces terres linguistiques de l'Iran oriental. Henning fera de même en mettant en contribution Sogdien, n'est-ce pas, ce soit par exemple, pour prendre un de ces exemples, un de ces phénomènes très particuliers qu'il a mis en exergue, et ce que nous appelons l'abrégement Sogdien, c'est-à-dire qu'un A long est abrégé, pas, lorsqu'il est en position antépénultième, en avant-dernière position. Bon, donc la graphie traduit fidèlement la phonétique originale de la langue. Or, cette idée-là n'est pas correcte. Cette idée-là n'est pas correcte. Nous savons aujourd'hui. Mais nous savons aujourd'hui que la question n'est pas tranchée. La question n'est pas tranchée. D'ailleurs, les réfutations telles qu'elles ont été faites par Morgenstern et Henning n'auront pas un succès immédiat. Beaucoup de gens resteront perplexes ou attacheront malgré tout une certaine importance à la théorie d'Andreas. Je rappellerai un exemple frappant. C'est l'exemple de Helmut Humbart, dans sa première édition des Gatha de 1959. On pourrait s'attendre que ce membre de l'école d'Erlangen, n'est-ce pas, rejette massivement la théorie d'Andreas. Eh bien non, il relève dans les Gatha, c'est dans son introduction, 5 exemples de fausses vocalisations. Il met tous les doutes possibles envers la théorie d'Andreas, mais il admet 5 exemples. Vous savez, c'est comme les histoires de fantômes, hein. Ça n'existerait qu'une fois, c'est assez, n'est-ce pas? C'est assez. C'est donc une position assez étrange, et elle n'est pas rare à cette époque. Kuiper, le grand spécialiste de Leiden, gardera une certaine perplexité jusqu'à aux années 70, n'est-ce pas? Il m'a d'ailleurs écrit, parce qu'à cette époque, il était désormais convaincu, parce que j'avais écrit quelque part que seul Kuiper... il écrira quelque part que, mon Dieu, oui, peut-être bien que la théorie d'Andreas nous paraît aujourd'hui mal soutenable, mais nous avons tout de même perdu l'âge d'innocence. Et il y avait une certaine méfiance subsistée envers la graphie avestique. Émile Benveniste, le grand linguiste, professeur au Collège de France, qui avait été un des partisans les plus fervents de la théorie d'Andreas dans les années avant les réfutations de Morgenstern et de Henning, ne dira jamais ce qu'il en pensait après. Ne le dira jamais. J'ai essayé de m'informer auprès de ses étudiants de l'époque pour savoir si oralement, du moins, il avait émis un avis. Je n'ai pas eu de réponse probante. Il ne le dira jamais, mais en 1968, c'est un de ses derniers articles dans le bulletin de la Société de linguistique, il rédigera un article consacré à la phonologie de l'avestique. Et cette phonologie de l'avestique est littéralement un tableau anti-Morgenstern. N'est-ce pas ? Au contraire, c'est une réfutation totale de l'adéquation entre la graphie et la phonétique originale, outrancière, parce que la graphie reproduit dans tous les cas fidèlement, selon Morgenstern, la phonétique originale, Benveniste, lui, réduit au contraire la phonétique qu'il suppose originale de l'avestique à ce qui n'est finalement que l'iranien commun que nous pouvons reconstituer par la comparaison de tous les dialectes. Alors, que faut-il en penser sur cette position? Eh bien, c'est que nécessairement la vérité est entre les deux. Mais nous ne savons pas à quelle place entre les deux, n'est-ce pas? Car il faut procéder à l'examen de chaque problème posé. La question n'est pas tranchée. Nécessairement, dans certains cas, la graphie reproduit la phonétique originale. Dans certains cas, non. Dans certains cas, non. Et pour ceux d'entre vous, mais c'est assez difficile à comprendre parce que la science progresse, se complexifie par la même occasion, mais dans les tout derniers exemplaires du bulletin de la Société de linguistique de Paris, dans la partie compte-rendu, vous verrez qu'il y a une controverse extrêmement vive et intéressante entre... les deux jeunes avestologues les plus doués de l'époque, qui sont certainement Michiel de Vannes et Xavier Tremblay, ou Michiel de Vannes, dans son livre sur les voyelles avestiques, défend des positions qui sont plutôt proches de celles de Benveniste, tandis que Tremblay est certainement beaucoup plus proche de Morgenstern, n'est-ce pas? Et cela, donc, une controverse de ce type, l'an dernier, ou il y a 2 ans, montre que la question de l'adéquation entre la graphie avestique et l'écriture n'est pas réglée. Mais je dirais que pour l'histoire de l'Avesta, ça n'a plus grande importance. Ça est une histoire qui concerne uniquement sa phonétique originale. Ça n'a plus d'interférence avec l'histoire du corpus. Car en réalité, la réfutation de Bailey, celle qui est moyenne, médiane, c'est pas en 1943, qui n'est pas fondée sur des détails linguistiques. C'est dans son livre qui s'intitule Zoroastrian Problems, Problèmes zoroastriens in the 19th century books. Dans les livres du 9e siècle, in the 9th century books, excusez-moi. Donc il veut dire par là les livres pelvis du 9e siècle de notre ère. Et Bailey montre que le témoignage des livres moyens perses, bon, d'abord contient des invraisemblances, j'ai anticipé en vous les donnant, contient des enjolivures permanentes, contient des bizarreries comme la nécessité récurrente de restaurer le texte sous les Sassanides. Ensuite, il montre aussi que le témoignage du Denkart est une chose, mais que dans d'autres textes moyens perses, nous avons des témoignages qui contredisent le Denkart et qu'en définitive, si nous tenons compte de l'ensemble des témoignages moyens perses, nous concluons, dit Bailey, que le clergé mazdéen du 9e siècle, ce qui est très tard, n'avait pas une représentation très claire de l'histoire du canon. En tout cas, n'avait pas une conception figée, uniforme, unanime de l'histoire du canon. Bien, alors, je vais me permettre d'être plus rapide. Mais vous savez que le problème de l'histoire du canon avestique, tout au moins de la période écrite, vous la connaissez parce que j'en ai parlé souvent peut-être, mais aussi je la pratique en permanence puisque j'étais très longtemps du moins partisan de ce schéma, et c'est celui de Karl Hoffmann. Karl Hoffmann a mené une investigation très longue sur les problèmes que pose l'Avesta écrit, celui de Geltner. En réalité, cette investigation commence en 1966 et elle s'achève en 1989. En 1989, il publie en collaboration avec Johann Artin la mise au point définitive de son enquête. Ça s'intitule « Der Sassanidische Archetypus », l'archétype sassanide. Voilà un beau titre. Mais le malheur, c'est que c'est là que réside l'erreur, comme nous verrons, n'est-ce pas? Alors, la représentation des choses que se fait Hoffmann est linéaire. Hoffmann étudie soigneusement, très soigneusement, il obligeait toujours ses élèves à le faire, parce qu'effectivement, on ne peut rien faire sans ça. Il faut lire de manière extrêmement précise la paracritique de l'édition de Geltner, où Geltner donne des manuscrits dont il disposait et qui sont pratiquement exhaustifs pour les manuscrits importants, du moins, donne une description. Les classes par famille, établit leur date, leur autorité. Il faut nécessairement partir de ce matériel manuscrit. Or, ce matériel manuscrit est récent. Il est récent. Le plus vieux manuscrit que nous possédons date peut-être de 1323, il y en a peut-être un plus ancien, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, c'est éventuel. Et en tout cas, les copistes, nous avons la chance dans la philologie avestique, les médiévistes, les élèves de l'école des chartes nous enviraient, n'est-ce pas, que les copistes de nos manuscrits font de beaux colophons. Ils datent la fin de leur travail, ils nous disent qui ils ont copié, qui était ce copiste qu'ils ont reproduit, quand il a travaillé, etc. Reproduisent parfois ses propres colophons. Donc nous avons une chance, n'est-ce pas? Nous avons la chance, assez rare en philologie, de travailler dans un cadre philologique extrêmement précis. Donc, 26 janvier 1323, le premier manuscrit, le plus vieux manuscrit avestique que nous possédons, est terminé par son auteur Mirabane. Très clair, très précis. Or, puisqu'il parle de leur devancier, nous savons aussi que tous les copistes avestiques, le plus ancien copiste dont le nom nous soit parvenu, ne possédant pas son manuscrit, était actif aux alentours de 1020. Aux alentours de 1020. On ne remonte pas plus loin. Pas de traces de tradition manuscrite au-delà de 1020. Alors, la seconde observation de Hoffmann, c'est que, bon, ça c'est sûr, il se base sur des critères linguistiques incontestables, hein, il a raison. Tous les manuscrits que nous possédons sont la copie d'un seul et même manuscrit. Un fil. Il est affolé quand il a vu cela, parce que ça signifie, du point de vue pratique, très, très clairement, que nous avons failli ne pas posséder la Vesta. Hein. Un seul manuscrit. Tous les manuscrits proviennent d'un seul. Il appellera la Stammhandschrift. Alors, où situer la Stammhandschrift? Nécessairement avant 1020, puisque en 1020, on commence à la copier. Le matériel manuscrit que nous possédons se constitue. Et nécessairement, après 870. Pourquoi 870? Parce que 870, c'est l'époque où l'auteur du Descartes décrit la Vesta complète qu'il possédait. Donc, dans l'esprit de Hoffmann, il y a une nécessité chronologique absolue. Hein? Entre 870 et 1020. C'est très court, comme vous voyez. Nous allons y revenir. Alors, investigation paléographique. L'alphabet avestique. Là, c'est pas cet alphabet phonétique. Comment s'est-il constitué? Je ne répète pas l'histoire. Mais Hoffmann fait le constat qui était très ancien. Il a déjà été fait au XIXe siècle. Il part de ce constat que l'alphabet avestique reproduit, mais avec des voyelles, hein, il reproduit la graphie moyen de la cursive moyen perse dans son dernier état de développement. Il faut donc dater ce dernier état de développement. Et en fonction d'un argument faux, Hoffmann, malheureusement, là, il est victime, il se trompe. Il croit qu'il peut, grâce à une inscription, le sarcophage d'Istanbul, dater les caractéristiques de la graphie vieux perse du règne de Chabour II. Donc, Hoffmann pense que sous le règne de Chabour II, 4e siècle, l'Avesta est mis par écrit en un unique exemplaire. Un exemplaire qui aurait servi, selon Hoffmann, de référence. C'est-à-dire, voilà, si nous, prêtres, nous avons une contestation sur la nature du texte, eh bien, il y a un canon déposé dans un endroit sacré, auquel, fixé, écrit, auquel nous pouvons nous reporter pour savoir exactement ce qu'il en est. Si nous avons des controverses sur tel passage textuel, elles peuvent être résolues par le recours à cet exemplaire. Hein? Et cet exemplaire-là, c'est le titre de son livre. Hoffmann va l'appeler l'archétype sassanide. L'archétype sassanide. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est ici plus nouveau, ça m'est apparu plus récemment, c'est que Hoffmann, son intervention sera décisive pour la réfutation en réalité de l'hypothèse d'Andreas. Les derniers partisans d'Andreas capituleront. Mais la vision des choses que s'est constituée Hoffmann est fortement dépendante de celle de Bailey. En passant la datation sous Chabour II, corrigeant, mettons Khosrow Ier, 531-579, bon, donc nous rajeunissons les choses de deux siècles. C'est la même chose. Car dans l'idée de Bailey, Bailey nous dit que l'Avesta que nous possédons, l'Avesta édité par Geltner, hein, l'Avesta, il donne cela comme une opinion. Il dit mon impression après avoir travaillé sur ces problèmes, dit-il dans une brève note, et celle-ci, c'est que c'est le reste d'une édition post-sassanide, donc postérieure à l'époque sassanide, de fragments qui ont été sauvés de la première édition, de l'Avesta, donc de la première, mise par écrit probablement, hein, effectuée sous le règne de Khosrow Ier. En modifiant, en substituant Khosrow Ier à Chabour II, c'est la vision de Hoffmann déjà, chez Bailey. Chez Bailey, ce qui n'est pas précis, c'est qu'est-ce qu'il entend par édition. C'est l'argument que j'opposerai éventuellement, à, peut-être le reproche que je pourrais faire à Bailey. Est-ce qu'édition veut vraiment dire mise par écrit? Est-ce que, dans le cadre d'une tradition orale, Le mot édition suppose la mise par écrit d'un canon, c'est ce qui est un peu vague, et c'est la raison pour laquelle ce genre de relation entre Hoffmann et ses prédécesseurs sera toujours très vague. C'est que Hoffmann, au contraire, qui est un homme très systématique, aime la précision dans l'énoncé, lui, très clairement, on sait ce qu'il pense. Bon, et puis son travail était naturellement sur la paléographie, était beaucoup plus argumenté. Alors, j'ai naturellement, donc justement, je reviens à mes cours de mon second cours, c'était celui de 96-97. Je l'avais consacré à une critique de Der Sassanidische Architypus. J'avais donc naturellement exprimé le fait que nous étions contraints désormais de rajeunir l'hypothèse de Hoffmann de 2 siècles pour la première mise par écrit, mais que nous devions aussi mettre en question la continuité linéaire que Hoffmann établit entre un archétype sassanide, exemplaire unique de la première mise par écrit, un certain nombre de copies déjà défectueuses de l'archétype sassanide qu'il appelle les Stammhandschriften, les manuscrits de base, et puis la masse des manuscrits que nous possédons toujours. La difficulté dans cette vision linéaire des choses, c'est la position que j'avais exposé à cette époque, c'était que rien ne parvenait à expliquer qu'en si peu de temps, au maximum 150 ans, entre 870 et 1020, les 3/4 de l'Avesta, au moins, se soient perdus. Qu'est-ce qui peut expliquer une disparition aussi massive, si rapide des textes? Nous n'avons pas de bonne explication. Dès lors, j'avais défendu un autre schéma, qui était le suivant. C'était que l'Avesta que nous possédons est composé de 2 anthologies qui étaient constituées avant tout le processus décrit par le Descartes. Car l'Avesta que nous possédons est fait de 2 parties, de 2 anthologies de textes. J'ai proposé d'appeler la première anthologie le récitatif de la liturgie longue. Il est composé de 3 livres, le Yasna, le sacrifice, le Videvdat, loi contre les démons, le Visprat, l'énoncé de toutes les normes. C'est la grande liturgie solennelle, très longue, à géométrie variable, parce qu'on peut introduire le Visprat dans l'Yasna, on peut y introduire le Videvdat, ou ne pas le faire. Donc il y a une géométrie variable, mais c'est le long sacrifice, ce que d'ailleurs peut-être l'Avesta lui-même appelle Darga Yasna, le long sacrifice. La seconde anthologie, c'est ce que j'ai appelé le recueil des liturgies brèves, ce sont les Yasht, des hymnes beaucoup plus réduits, adressés aux divinités autres qu'Ahura Mazda, et puis des petits rituels saisonniers, ou pour les fêtes agricoles, etc. Donc, 2 anthologies qui avaient une utilisation liturgique évidente. Et j'ai fait l'hypothèse qu'à une époque très ancienne, peut-être achéménide déjà, peut-être arsacide, comme dit le Descartes, pourquoi pas, n'est-ce pas, l'on a sélectionné, je ne peux rien dire de plus pour l'instant, un certain nombre de textes avestiques pour les mettre au service d'une liturgie particulière. Un long sacrifice, ou bien pour les mettre au service d'un certain nombre de petites liturgies privées ou adressées à des dieux particuliers. Donc, des textes utilitaires. Je n'aime pas l'analogie. Ceux qui aiment l'analogie diront l'Avesta que nous possédons, c'est le missel. Tandis que l'Avesta sassanide du Descartes, c'est le Thésaurus. Si l'image peut vous parler, tant mieux. Bon, je ne la prends pas à mon compte, mais si ça peut donner une image claire des choses. Donc, nous avons en réalité 2 textes parallèles qui coexistent l'un avec l'autre. Le Missel et le Thésaurus, l'ensemble de tous les textes. Alors, comment faut-il, si les choses sont comme cela, comment devons-nous considérer les choses? Je terminerai par là, 2 conclusions. Bien, c'est que simplement, le rapport que les historiens de l'Avesta ont avec le témoignage du Descartes est bouleversé. Le Descartes n'est pas un témoignage sur la genèse du texte que nous avons, mais c'est un témoignage sur la genèse d'un éventuel thésaurus, collection de tous les textes. Et cette collection, nous ne la possédons pas. Et effectivement, les textes nous en font une description très inégale. Donc, nous ne pouvons pas confronter directement ce que nous pensons de l'histoire de l'Avesta au témoignage du Descartes. Elle doit se faire, elle aussi, comme les questions vocaliques, détail par détail. C'est un programme. Je vous avoue, ce n'est pas le mien. Nous n'en parlerons pas. Mais je sais qu'il est déjà... cette vision des choses tend à se propager. Et je sais que des spécialistes, jeunes pour la plupart, à Boston ou à Salamanque, travaillent dans cette perspective et envisagent le témoignage des textes moyens perses dans cette perspective-là, ce qui est donc un bouleversement des choses. La deuxième chose, elle m'est apparue un peu avant, mais ne m'est pas apparue non plus tout de suite, c'est que dans cette perspective-ci, l'Avesta n'est pas comme le pensait Bailey, ou comme le pense Hoffman, pour reprendre un mot de Geltner, hein, qui pensait la même chose, bien sûr, plus anciennement, ein Bruchteil, un lambeau, un reste hasardeux de textes perdus. C'est pas... Nous possédons deux anthologies qui ont été élaborées. Elles ont été constituées consciemment, avec soin, probablement même plus, méticuleusement, et destinées à avoir un sens. Dès lors, nous ne pouvons pas dire « Ah oui, bon, le texte est... c'est un chaos dans lequel, incohérent, n'est-ce pas, nous avons ici un texte qui se rapporte à ceci, un texte qui se rapporte à autre chose. » Non, c'est un texte qui, dans l'esprit de ses arrangeurs, je ne parle pas de l'esprit de ses auteurs qui nous échappent, mais dans l'esprit des arrangeurs, ce texte a un sens. Et nous avons le devoir de le chercher. Bizarrement, on ne l'a jamais fait jusqu'ici, parce que simplement, on considérait l'Avesta comme une épave. Si nous le considérons comme un texte conscient, comme un texte arrangé, cohérent, nous devons chercher son sens. Attention, il y a des limites, bien sûr. Cela ne vaut que pour le récitatif de la liturgie longue. Les autres liturgies sont trop brèves, hein, c'est clair. Hein. Un hymne à Mitra est un hymne à Mitra. Mais le long yasna, comme dirait l'Avesta, comment est-il constitué? Comment est-il constitué? Ensuite, c'est que tous les textes que l'arrangeur, à une époque tout de même, par rapport à la composition des textes relativement tardifs, que ce soit sous les achéménides tardifs ou sous les arsacides, a assemblé, ces textes-là n'étaient pas peut-être, ces textes à disposition de l'arrangeur n'étaient peut-être pas homogènes. Ils avaient été pendant des siècles peut-être manipulés. C'est une autre question, les manipulations antérieures à la constitution des anthologies. C'est une perspective aussi que nous devons entretenir. Donc, voici un nouveau devoir. Celui-là, c'est mon programme. C'est de savoir quel sens a le long yasna. Et je vous ferai remarquer que depuis 2 ans, depuis les analyses que nous avons risquées du Holmstorm et de ce que j'ai appelé la zone des déclarations, nous nous posons des questions sur le sens et la composition de la liturgie du yasna. Nous allons reprendre cette étude. J'espère vous avoir fait bien comprendre aujourd'hui dans quelle perspective nouvelle, évidemment, nous devons situer la problématique qui nous retient. Ainsi, curieusement, par hasard, n'est-ce pas, les deux derniers cours qui avaient pour motivation de coller à l'actualité nous ont fait retrouver une problématique que nous avions envisagée il y a 10 ans. Il y a une confluence, n'est-ce pas, entre une vieille réflexion sur la nature du canon avestique et le sens de la liturgie du yasna. Alors, nous commençons à parler de cela la fois prochaine. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.